Bon, en compagnie de Philippe Quentin et Jérémy Rainville, on va reparler de cette transaction hier au repêchage, ce jeune Finlandais qu'on est allé chercher. Philippe a l'air très, très content de l'acquisition, en tout cas.
Ben, ce que je trouve, c'est que le Canadien répond à un besoin. Et une des dilemmes au repêchage, c'est toujours la même chose. On se demande, est-ce qu'on choisit le meilleur athlète disponible, le meilleur joueur disponible, ou on y va un petit peu plus selon les besoins de notre équipe. Et moi, je pense que quand on parle des trois ou quatre premiers choix au repêchage, l'écart au niveau du talent, là, est généralement assez mince, à moins qu'il y ait un joueur d'exception, qu'il y ait un McDavid, qu'il y ait un Matthews, comme ça survient parfois. Mais cette année, je suis pas convaincu que c'était le cas. On dit beaucoup de bien de Rasmus Dahlin, qui était un premier choix, semble-t-il, un peu automatique, là, un jeune défenseur suédois qui a été sélectionné par les Sabres de Buffalo au premier rang. Mais par la suite, là, on parlait un peu de talent semblable. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il était clair que le Canadien devait aller combler sa principale lacune, c'est-à-dire la position de joueur de centre. Un problème majeur pour l'organisation depuis des années et des années et des années. Et là, pour un deuxième repêchage consécutif, le Canadien va chercher un joueur de centre. C'était un Américain, Ryan Poehling, l'an dernier. Et cette année, Kotkaniemi qui est choisi. Alors, au moins, on commence à avoir un peu d'air frais là, à la position de centre. Et ça, je pense que c'est vraiment bienvenu.
Peut-être juste, Philippe, si tu me le permets, et Marie-Hélène également, peut-être juste faire un résumé de cette première ronde. Donc, le Canadien qui a repêché Jesperi Kotkaniemi au troisième rang. Tu le mentionnais, Dahlin au premier rang. Andriy Shechnikov au deuxième rang. Par la suite, Brady Tkachuk s'en va avec les Sénateurs d'Ottawa. Philippe Zadina, qu'on voyait être repêché par le Canadien, lui, repêché par les Red Wings de Détroit au sixième rang.
Ouais, mais ça, Jérémy, si tu me permets, c'est assez intéressant parce que Zadina espérait être choisi par le Canadien au troisième rang, sinon par Ottawa au quatrième rang. Là, il glisse jusqu'au rang où Détroit le choisit, sixième. Et là, lui, il n'est pas content. Il s'en va après en
déçu.
Point de presse.
Ouais. Ouais,
il est très déçu. Et il dit, vous allez voir, il dit, quand je vais jouer contre le Canadien puis contre Ottawa, là, éventuellement, je vais remplir le filet pour leur montrer qu'ils sont trompés. Alors, lui, il n'était pas très, très heureux de sa soirée.
Et juste pour poursuivre là-dessus, il y a 14 défenseurs qui ont été sélectionnés en première ronde. C'est un record. La dernière édition, la meilleure édition comme défenseur, c'était en 2012 avec 13. Et il y a 6 Suédois qui ont été sélectionnés. C'est égal à un record de 93, 2009 et 2011. Vraiment, les Suédois, hier, en première ronde, ont eu la cote.
Et les défenseurs, là, contrairement à ce qu'on a déjà vu dans le passé, ce ne sont pas tous des colosses de 6 pieds 3 et 200 livres. Beaucoup de défenseurs de plus petite taille, mais très mobile. Et c'est clairement là, la tendance dans la Ligue nationale. On veut des joueurs qui relancent l'attaque en défense, qui sont capables de réagir rapidement, de faire des belles passes aussi. Alors ça, c'est un développement assez intéressant dans la Ligue nationale au cours des dernières années.
Mais là, on ne vient pas tout régler pour la prochaine saison. Il va falloir être patient et indulgent.
Ça va prendre au moins 2-3 ans avant c'est de ça. Voir ouais. vraiment ces ouais. joueurs-là.
Le Canadien va être très bon en 2022.
Ben écoute, c'est toujours bien un objectif.
Ouais, c'est ça. L'important, c'est d'aller de l'avant. Sauf qu'il y a un problème avec le Canadien. Et je vais vous expliquer comment je vois la situation. C'est qu'effectivement, c'est intéressant là, de voir Kotkaniemi arriver, puis Poehling éventuellement. Puis bon, il y a Victor Mété qui représente aussi un peu de renouveau en défense qui a joué l'an dernier. Mais ça va prendre pour tous ces jeunes-là un certain nombre d'années avant de devenir vraiment des joueurs solides dans la Ligue nationale. Je parle même pas du moment où ils vont atteindre le sommet de leur carrière, mais juste là, quand ils vont vraiment occuper un poste de joueur régulier, là, surtout dans le cas des deux joueurs de centre. Mais entre-temps, les vedettes actuelles du Canadien, ce sont des joueurs qui vieillissent. Alors, Weber a plus de 30 ans, Price a plus de 30 ans, ou 30 ans et plus. Alors, eux, évidemment, ça ira pas en s'améliorant. C'est l'âge qui va les rattraper, c'est inévitable, c'est de même pour tous les athlètes dans tous les sports. Alors, quand les jeunes vont vraiment être en mesure d'aider le Canadien, des gars comme Weber, des gars comme Price auront plus 33, 34, éventuellement 35 ans. Alors, tu sais, il y a un débalancement, là. Et ça, c'est un peu dommage pour le Canadien, parce que l'idée, évidemment, si tu veux remporter la Coupe Stanley, c'est que tu aies un maximum de joueurs qui soient au même moment à peu près au sommet de leur carrière, ou en tout cas en pleine ascension, avec peut-être quelques-uns plus vieux qui viennent apporter l'expérience, mais quand même, tu veux un noyau solide, un noyau fort de joueurs qui sont vraiment au sommet de leurs possibilités. Et là, je vois un débalancement chez le Canadien de ce côté-là, et ça, c'est un problème.
J'avais une image ce matin, Philippe, ça va peut-être te faire sourire. Je parlais avec Jérémy avant l'émission parce que je voulais qu'il m'explique un peu comment ça marchait le repêchage, parce que je trouve ça compliqué. Là, aujourd'hui, on part de...
Dès 11 heures, les rondes 2 à 7 rondes.
Puis j'imaginais un peu Marc Bergevin parce que, comme un joueur de poker... avec ses jetons en avant de lui puis les poches pleines de cash.
Ouais.
L'image, ça marche, hein?
Oui. Oui. Ben cette année, clairement, parce que il y a 4 choix en deuxième ronde, donc la ronde qui commence ce matin à 11h. Et ça, c'est assez inhabituel d'avoir 4 choix de deuxième ronde et ça permet des possibilités. Sauf que la question qu'on se pose tous ce matin, c'est est-ce que Bergevin a raté l'occasion de monnayer ses choix au repêchage-là puis d'aller de faire une transaction en s'en servant de un ou plusieurs d'entre eux comme contrepartie qui serait suffisamment intéressante pour acquérir un joueur ou un choix intéressant. Maintenant, on le sait maintenant. Ça n'a pas fonctionné pour la première ronde. L'idée, ça aurait peut-être été de donner un ou deux choix de deuxième ronde pour avoir un choix additionnel en première ronde. Ça aurait été bien parce qu'il y avait notamment des Québécois là, qui ont été choisis très tard en première ronde, qui auraient certainement fait le bonheur du Canadien. Et c'est dommage de voir que cette occasion-là n'a pas été saisie.
C'est peut-être là, Philippe, qu'on va voir, entre autres, Marc Bergevin, si on parle de transactions dans le cas de Pacioretty, et avec 4 choix de deuxième ronde, vouloir améliorer son équipe à court terme. Là, on a parlé du développement à long terme. Mais tu sais, ça demeure pas moins que le club n'a pas fait les séries 2 fois dans les 3 dernières années.
Il faut qu'on les fasse l'an prochain.
Il faut que tu fasses quelque chose cette année. Là. Il faut que tu bouges les cartes. Philippe,
écoute. Tout à fait. Puis on parle beaucoup de Pacioretty aussi. Là. Ouais. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Mais chose certaine, il y a énormément de rumeurs à son endroit.
Philippe, le temps file rapidement. Il y a deux mots. Taloche. Moi, j'utilise mornif. C'est pour décrire la performance, cette défaite des Alouettes 56-10 face au Blue Bombers de Winnipeg. Puis ça, il faut que je prenne juste un petit instant pour vous expliquer. 13e défaite de suite pour les Alouettes de Montréal. Ça, ils n'ont pas gagné depuis le mois d'août l'année passée.
Incroyable.
6e défaite de suite à domicile. T'as beau avoir le meilleur plan marketing au monde, si tu ne gagnes pas sur le terrain, tu ne peux pas attirer
des
gens.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont les voir
jouer? Il y en a
encore,
ça, c'est quoi l'ambiance? C'est pas rempli à guichet fermé. Ouais. Là, mais non, encore des gens.
Ça va être très dur là, de maintenir l'intérêt aussi avec s'il y avait d'autres défaites comme celle-là. Mais c'est vraiment terrible parce que tu sais cette saison, les Alouettes arrivent avec un nouvel entraîneur, Mike Sherman, qui est une sommité dans le monde du football, ancien entraîneur, directeur général des Packers de Green Bay, une feuille de route extraordinaire. On sent au niveau de la direction, du marketing, des initiatives pour animer les soirées au Stade olympique, un renouveau fantastique. Alors, il y a un élan là, autour de l'organisation. Et là, arrive le premier match. Et même le premier match sur la route est pas trop mal. Une défaite, mais bon, une défaite honorable. Et là, arrive le premier match à domicile. Puis c'est là que tu veux faire un bang. Là. Tu veux montrer aux fans, hey, cette année, là, vous allez voir ce que vous allez voir. On est une nouvelle équipe, une nouvelle organisation. C'est du solide,
ça
c'est du sérieux.
Mal.
Et là, ça finit pas 23-20. Ça finit 56-10 pour l'autre équipe. Oui, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Et là, tu dis, coudon, comment ils vont faire pour se sortir de ça? Mais ça revient toujours à la même chose. Dans cette ligue-là, quand t'as pas un grand corps arrière, dans tout le football, quand t'as pas un grand corps arrière, puis quand ta ligne offensive pour protéger ce corps-là est pas solide, c'est presque impossible de gagner.
Merci bien, Philippe. Merci, Salut. Jérémy.
Plaisir.